France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je m'appelle Amandine Beyer, je suis née en novembre 1974 à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, en Provence, et je suis violoniste.
Amandine Beyer revient aujourd'hui sur sa rencontre avec les chorégraphes et danseurs Anna-Theresa de Kersmaeker et Boris Charmatz à l'occasion du spectacle Partita 2 qu'ils ont créé tous les trois à Bruxelles en 2013. Une expérience qui va profondément marquer la violoniste.
Déjà, on n'est plus tout seul et côtoyer des gens qui... aussi des gens qui font de la création à partir de quelque chose, ça m'a complètement tranquillisée. Ça m'a un peu affolée dans le sens de dire mais moi je sais jouer que ce qui a marqué, mais c'est pas grave. Ok, maintenant j'ai accepté, je joue ce qui a marqué, mais c'est déjà pas mal. Et eux ils font leur truc et finalement ils font aussi ce qui a marqué parce que finalement ils l'ont décidé et ça m'a transformée. Donc au moins une des six, la deuxième partita, ça je sais que je peux le jouer même à l'article de la mort. Je pense que je peux encore y arriver parce que je l'ai quand même fait 140 fois parce qu'on a fait 70 spectacles et je joue deux fois par spectacle plus toutes les règles générales, donc je crois que je l'ai fait 200 fois et ça m'a complètement transformée déjà d'être au contact de danseurs comme ça, de gens qui pensent la musique, qui pensent le temps, qui pensent l'espace.
Anna-Theresa de Kersmaeker, elle dit voir la musique et écouter la danse.
Oui, exactement. Et c'était incroyable, incroyable. C'est, je pense que c'était la chose la plus importante qui me soit arrivée musicalement dans ma vie, parce que ça aide pour tout, de aussi de voir comment ils pensent la musique et qu'est-ce qu'ils en font. Et après avoir beaucoup travaillé ça, j'ai recollaboré avec Anne-Theresa dans un projet sur les six concertos brandebourgeois. Ça a été un énorme travail que j'étais pas sûre de vouloir faire parce que c'était pas avec mon groupe. Au début, ça devait être mon groupe, puis après, c'était plus avec mon groupe pour des issues de subvention. Mais quand même, je me suis dit, je peux pas ne pas le faire. Et en fait, j'étais ravie. Encore cette semaine, j'étais à Genève et c'est 14 danseurs sur scène. Et j'écris, voilà, chargée de production. C'est comme accompagner des dieux et des déesses.
Vous jouez quoi?
On joue les six concertos brandebourgeois. Et c'est quand on est le tapis, leur tapis de danse. On est leur trampoline, on est leur sol. C'est juste incroyable. Et ça, pour moi, c'est vraiment, parce que justement, autant le texte, un texte par-dessus la musique, ça va me, je sais pas, je vais avoir des frottements sémantiques, je sais pas, ça va bugger. Autant le geste, bah ça dépend quoi, hein. Mais ce genre de geste, c'est qu'une ouverture. Il n'y a aucune frontière entre la lune, c'est vraiment voir la musique. Quand j'étais petite, ça c'est des souvenirs que j'ai et on n'en a pas parlé. On n'allait pas trop au festival d'art lyrique parce que c'était très cher et assez, on va dire, réservé. Et c'était en juillet. Et en août, Aix se vidait de tout le monde et il restait trois chats et on allait au sud d'Aix, à l'Arc, enfin, près de la Pont de l'Arc, la banlieue sud, on va dire, d'Aix-en-Provence. Et là, il y avait Danse à Aix, qui est un super festival. Il est beaucoup plus accessible, la danse, et que de la danse contemporaine. Et donc, j'ai des souvenirs enfants de danse contemporaine, de William Forsythe, de Maggie Marin, de plein de compagnies françaises et internationales. Et ça, c'était Momix, des trucs incroyables. Et pour moi, là, tout va bien. Je ne sais pas pourquoi. Ça me porte.
Vous avez quelque chose, en effet, de la bâtisseuse. Vous aimez que la danse vous porte, mais vous aussi, vous aimez porter des projets. Il y a cet ensemble L'Incogniti. Et puis, quelques années plus tard, il y a aussi un quatuor qui va naître.
Oui.
Qui est le quatuor Kitgut. Ce drôle de nom. Je ne sais pas, je le dis bien ou...
Si vous dites comme vous voulez. Vous pouvez dire Kitgut, parce que c'est gut strings, en fait. C'est les cordes en boyau. Gut, c'est boyau. Et kit, c'est de chat. Kitten, Hello Kitty. C'est le petit chat. Donc, c'est les boyaux de chat. C'est le nom du quatuor. Oui, ça, mais ça, alors ça, c'est pas moi qui l'ai bâti. C'est Naman, c'est l'autre violoniste. Moi, je parle, bon, on est à quatre. Hein. Mais c'est un truc très... Autant les Incogniti, j'essaye aussi toujours que ça soit très démocratique et ça termine toujours que c'est moi qu'on interview, que c'est moi qui fais ci, que c'est moi qui fais ça, parce que c'est plus facile d'avoir, quand on est nombreux, d'avoir une interlocutrice. C'est vrai que c'est quand même moi qui fais plein de choses au point de vue, finalement, très en fin de chaîne. Parce que tout le reste du groupe, c'est vraiment pas moi. C'est des gens extra comme... Baldo, mon copain qui s'occupe de tous les programmes. Clémentine, qui est notre super agente, administratrice. Manon, qui est notre chargée de production. Et c'est les gens qui font vraiment vivre le groupe et qui s'en occupent. Moi, je fais la cerise sur le gâteau. C'est important aussi, mais on est beaucoup. À Kitgut, c'est beaucoup plus confidentiel. Et on est vraiment quatre. Et on fait pas non plus énormément de...
Non,
concert.
Mais il y a des disques.
Il y a un disque.
Le disque est sorti. Quelle était l'envie, alors, à ce moment-là, de Naman de faire ce groupe-là?
Eh ben, parce que lui, il est hyper passionné de quatuor et il a réussi à nous infecter, repasser le truc. Moi, j'en avais fait un peu, justement, avec des gens de Café Timmerman. Un quatuor s'appelait Rincontro. On avait fait un enregistrement Richter et une musique que j'adore. Et puis après, bon, c'était un peu compliqué, c'était pas comme ça que je voulais faire vraiment. Et puis Naman, je l'ai rencontré dans un stage et il avait très envie. Et quand Naman a envie, vous pouvez rien lui refuser. Ça. Puis il a ramené Joseph, que je connaissais un peu, et Fred, que je connaissais pas. Et ça fait pchit. Voilà, ça peut vous dire que ça. C'est super. On se voit pas beaucoup, mais quand on se voit, on s'entend tellement bien qu'on a du mal à répéter parce que c'est à la parlante. On a toujours plein de trucs à se raconter. C'est un quatuor. Je sais qu'il existe même si on se voit pas. C'est le quatuor amateur. Des gens qui le font vraiment pour le plaisir.
Les affinités électives, il y a des gens très importants. Je pense à Pierre Antaille, Edna Stern, Giuliano Carmignola. Peut-être juste parlons de ces trois-là, par exemple.
Alors,
Giuliano Carmignola, peut-être était quelqu'un, Amandine Beyer, qui comptait avant même de le rencontrer.
C'est toujours mon idole. Donc, quand je l'ai rencontré, j'étais dans mes petits souliers. Non, en fait, avant de travailler, c'est-à-dire avant de l'inviter à faire un projet avec L'Incogniti, je le connaissais un tout petit peu, mais Giuliano est quand même pas quelqu'un de si facile que ça à approcher. C'est une grosse star, et puis c'est aussi quelqu'un avec son caractère et avec ses coupe-feu, on va dire, ses barrières. Et enfin, c'est pas que vous voilà. Et heureusement, je le connaissais un tout petit peu grâce à Chiara qui l'avait invité quand j'étais étudiante à la Scola. Il est aussi dans le jury quand j'avais gagné ce concours, mais je me rappelle en plein milieu de l'épreuve, il s'était levé, il est allé se promener. Giuliano, c'est quelqu'un de complètement. Et il fait ce qu'il veut quand il veut, mais j'adore. Il a raison. Donc il s'était levé pendant que je jouais, puis il a été se promener, puis il est revenu. Mais il avait bien aimé, mais c'est juste que c'est pas de, voilà, il n'était pas resté à la table en train d'écouter. Et c'est toujours grâce à Olivier qui en fait est un de ses secrétaires particuliers et qui s'occupe vraiment beaucoup de tous les Vivaldi qui jouent, que j'ai pu vraiment avoir un contact personnel. Et Giuliano, et c'est quelqu'un, quand j'ai fait les 4 saisons, ça faisait des années que j'écoutais ses disques et que je m'entraînais avec lui à la maison. Et pour moi, c'était vraiment une image incroyable. Et le rencontrer, ça m'a fait très plaisir. Et de faire cet enregistrement, c'était toute une histoire avec des rebondissements féliniens que je ne peux pas raconter. Non, mais bon, on va dire à l'italienne. Tout ce qui peut se passer à Rome s'est passé. Des disparitions, des réapparitions, des pleurs, des portes, des drames, des fugues. Mais vraiment, c'était... Un jour, j'écrirai mes mémoires. Parce que là, comme il y a des personnes encore en jeu, je ne peux pas tout vous dire. Mais voilà, c'était super intense, comme j'ai bien aimé. Et il est comme... En fait, j'adore de Giuliano, il est comme il joue. Donc, intense. Et imprévu et imprévisible et volcanique. Et donc, c'était génial. Et avec Pierre, alors c'est tout à fait différent. Il est aussi un personnage. Avec Pierre, j'apprends tout le temps. C'est comme un grand stage en permanence.
Qu'est-ce qui vous apprend le plus ? Ce serait quoi si jamais il y avait un geste ou...
Eh bien justement, c'est un geste de Pierre que je ne sais toujours pas bien. C'est quelque chose qu'il a en commun avec Giuliano. On en parlait une fois avec un ami turbiste. Je pense qu'il a des connexions nerveuses plus rapides que le reste de la planète. Et donc, en fait, entre le temps de décision du geste et le geste, il n'y a pas de délai. Et ça, c'est fascinant. Il le pense, il le joue et c'est en temps réel. C'est très plastique, du coup. C'est très fort. Oui. Et ça, Giuliano l'a énormément aussi. C'est fulgurant comme ça. Et donc, Pierre, il a ça allié à un sens du rythme que moi... Alors, moi, pour moi, c'est de la science-fiction parce que moi, soit je m'endors, soit je presse. Il y a un problème, je sais pas, interne d'horloge. Et Pierre, il peut avoir une sorte de rythme, mais c'est pas du tout métronomique, hein, mais c'est une puissance, mais vraiment, c'est fascinant. Moi, ça me laisse sans voix. Donc c'est ça que j'adore.
Les grands entretiens, Judith Chen.
Et avec Edna Stern ?
Avec Edna Stern, ce qui était très drôle, c'est qu'on n'a fait qu'un projet finalement, mais on était un peu toutes les deux en balbutiant un répertoire qui était sur les sonates de Carl Philipp. Et ça, c'est un peu comme le disque Matthäus, c'est quelque chose dont plein de gens me parlent souvent, Par exemple, Giuliano, il adore ce disque. Chaque fois que je le vois, il me dit « Ah, j'ai encore écouté le Carl Philippe. » Et moi aussi, j'adore ce disque. Déjà parce que j'adore cette musique, mais il y avait, je pense qu'on était toutes les deux très jeunes et il y a une sorte de... Je sais pas, c'est un peu deux jeunes filles, femmes qui essayent quelque chose. Il y a... Oui, c'est un moment indescriptible. C'était enregistré dans un endroit... j'aurais jamais pensé qu'un jour j'allais enregistrer un disque en banlieue pragoise. Comme quoi, il faut jamais dire jamais. Donc une salle de bal du 19e siècle dans une banlieue, on va dire, communiste de Prague. Et on est arrivé, il faisait très très chaud, c'était juin, et il y a eu une tempête de grêle où on aurait dit qu'il y avait neigé. Donc tout était, c'était vraiment, j'ai des souvenirs très très clairs de cet enregistrement. Et c'était assez étrange et Edna était très préoccupée par ses, tous les ornements. Et moi j'étais, on avait chacune nos petits problèmes.
Utiliser, j'ai lu ça, le même violon, alors peut-être pas forcément toujours le même archet pour jouer trois siècles de musique, mais par contre, Amandine Beyer, trois positions.
Oui, alors, presque. j'ai un violon que ma sœur m'a offert quand j'ai commencé mes études à Bâle, fait par un luthier suisse qui maintenant est décédé, malheureusement, qui vivait à Cucuron. Donc dans le Luberon et c'est un violon qui voilà, il est dans cette boîte là, il est toujours avec moi pratiquement, ouais. Et c'est un modèle Amati du père Andrea et de l'oncle de Nicolas, et c'est un modèle très très ancien, c'est-à-dire c'est une copie, donc c'est une copie de 96. Le violon il est pas très vieux, mais le modèle, si vous le mettez sur une table, on dirait vraiment une nature morte de la fin du 16e siècle. Il est très très plat et tout, et il a un son que j'adore mais pas très puissant. Et avec ce violon je joue la musique Renaissance jusqu'à là, j'ai fait du Mozart, ça commence à vers Mozart, ça commence à brinque-baller un peu. Et là, c'est vrai qu'on peut utiliser au moins deux techniques. Soit un violon très bas, comme sur les iconographies où le violon est vraiment juste au-dessus de la poitrine, vraiment bien, bien en dessous de la clavicule. Soit le violon sur la clavicule. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi, la troisième genre de position, c'est d'appuyer le menton, soit de mettre une mentonnière, en tout cas de tenir le violon aussi avec le menton. Donc c'est de rapprocher tout. Ce que j'utilise souvent aussi, même quand j'ai, soi-disant, j'appuie pas, parce qu'en fait, il y a plein de moments où c'est pratique. Et maintenant, j'ai deux autres violons. J'en ai un que j'utilise beaucoup pour la musique plus tardive. Et un autre que j'utilise pas beaucoup, mais que je voudrais utiliser plus pour faire, c'est de la musique un peu comme mon Amati là, mais c'est un modèle Steiner, c'est un modèle tyrolien, donc le son c'est très différent, le modèle c'est beaucoup plus bombé. Et le violon plus tardif, c'est un luthier brésilien qui s'appelle Marcelo Viana Cruz qui l'a fait, et de lui j'ai aussi un alto et un violon piccolo et un violon moderne. Et de mon violon Steiner, c'est un violon qui a été fait par Charles Richer, un très très joli violon que pour l'instant je partage avec une étudiante parce que j'arrive pas à le jouer autant que je voudrais, mais donc voilà, en général tous les instruments je les prête beaucoup, aussi les archets, parce qu'il faut que ça joue, ça c'est clair. Et donc l'histoire de la position, c'est hyper important, mais je joue trois ou quatre siècles de musique, j'arrive pas non plus à me transformer comme ça. De temps en temps, c'est pas facile, quoi. Donc des fois, il y a des positions. Et puis, par exemple, il y a des histoires aussi d'inclinaison du violon, d'angle et de place d'archet. Ça, dans mon école, ils insistent énormément. Mais moi, je peux pas non plus tout changer tout le temps, quoi. C'est super dur. Déjà, à trouver un angle pour soi-même, c'est bien. Parce que les traités, c'est génial, mais c'est pour des gens qui apprennent, mais ils vont toute leur vie jouer là, comme ça. Je peux pas jouer selon le traité du 16e, selon le traité de 1650, selon le traité de 1720. Moi, je deviens parano à la fin. Je sais plus quoi faire, quoi. Soit vous vous spécialisez énormément, soit vous faites un peu de tout, et après, il faut faire sa propre sauce, parce que sinon...
Vous avez dit au début de notre rencontre que les livres étaient extrêmement importants pour vous. C'est quelque chose qui continue de vous nourrir. Vous aimez la fiction, vous aimez... Est-ce qu'il y a des livres comme ça qui, à la manière d'une partition, sont des livres dans lesquels vous revenez, vous puisez des choses?
J'aime pas trop relire.
Je me demandais si jamais, par exemple, les écrivains de la Provence, les écrivains du Soleil, les Giono...
Ah ben, ou Giono, les, ouais, c'est mon... oui. Ça, peut-être, c'est le seul écrivain que je... Bon, disons que j'ai pas encore lu tout de Giono, mais comme j'étais profondément amoureuse d'Angelo pendant des années, j'ai quand même lu pas mal de Chat sur le soir, Angelo, et donc toutes les histoires avec ce personnage. Si, ça, je lis toujours. Bon, Camus, que je considère, je ne sais pas pourquoi, un peu un écrivain du Sud aussi, d'Algérie. Mais bon, Camus aussi.
Mais cette Algérie, vous n'en parlez pas du tout, de vos aïeux et de...
Ben, c'était pas... Je pense que c'était pas un très bon souvenir. Donc, c'est pas... Disons, c'était... Si, d'une certaine manière, oui. Et d'une certaine manière, non. Donc, ça a été un peu... mis de côté, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Alors que je pense que plein de choses, ne serait-ce que je connais pas grand-chose de ma famille et je sens pas, donc j'étais pas ça. Mais si, je sais que mon nom est alsacien, mais que après il y a Aveyron, Espagne et Italie, et donc ça fait une sorte de truc qui est quand même plus vers la Méditerranée. Puis tout ça s'est retrouvé en Algérie, mais que bizarrement, le nom de tutelle, il est près de l'Allemagne. Donc, des fois, ça me fait rire. Mais non, on n'en parle pas beaucoup.
Vous êtes mère?
Oui. J'ai une fille de 13 ans.
Et elle fait de la musique?
Non, elle ne fait pas de musique. Hein. Et elle aime bien. Hier, on écoutait le concerto pour deux pianos de Poulenc. Et c'est génial. Et elle aime bien, elle adore le piano et la clarinette. Je crois que vu que papa a eu la viole de grimpe, la contrebasse et maman du violon, maintenant aussi on fait un peu d'ukulélé ensemble. Mais au moins on apprend toutes les deux. C'est pas moi qui donne des cours.
Thank you. Le fameux canon de Pachelbel par l'ensemble Li Inconiti termine cette belle rencontre avec la violoniste et chef Amandine Beyer, une série réalisée par Marie Groux. Prise de son Philippe Thibault, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.